Il est 7h.
La montée de la tension, malheureusement, elle n'est pas que dans le sud. Aucun territoire de la République n'est épargné par cette gangrène qui se croit tout permis, qui est quelque chose qui dépasse l'entendement.
L'exécutif face à son bilan sécuritaire. Après Avignon la semaine dernière, Fréjus ce week-end, des policiers pris pour cible et la colère de leurs représentants syndicaux. Réunion aujourd'hui à Matignon. En attendant, après 4 jours de traque, 2 suspects ont été interpellés près d'Avignon. Information de la nuit sur laquelle on revient dès le début de ce journal. À suivre aussi, un manipulateur sans empathie ni culpabilité, Nordal Lelandais, vu par les experts psychiatres. Ils seront entendus aujourd'hui. Et puis la sale semaine du Paris Saint-Germain. Après l'élimination en Ligue des Champions, Paris a-t-il laissé filer le titre en championnat ? Match nul, un partout hier soir contre Rennes. Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré, et le regard international, Vincent Hervouet.
La Russie, seule au monde et qui montre les dents, hier fête nationale sans masque et défilé sur la place rouge. Vladimir Poutine dénonce la russophobie.
L'édito sport, Virginie Fulpin.
Et célébrer la victoire des Roses un 10 mai, c'est pas du tout de la politique, c'est du handball avec les Nantaises, la Team Rose, sacrée championne d'Europe.
Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern, notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et on l'a donc appris cette nuit, 2 suspects ont été arrêtés dans l'enquête sur le meurtre d'un policier à Avignon la semaine dernière. Bonjour Guillaume Bier.
Bonjour.
Ce sont 2 hommes qui ont été interpellés sur la route, pas très loin d'Avignon.
Oui, et c'est parce que ces 2 hommes s'apprêtaient à prendre la fuite, sans doute vers l'Espagne, que les policiers sont intervenus de nuit. Vers 22h30 hier soir, ils les ont interceptés sur l'autoroute, à une 20aine de kilomètres d'Avignon, alors qu'ils roulaient en direction du sud. Les policiers d'élite des BRI de Marseille et de Montpellier, qui les avaient placés sous surveillance, les ont arrêtés au niveau d'une barrière de péage. Ces 2 hommes sont soupçonnés d'être directement impliqués dans le meurtre du brigadier Éric Masson. L'un d'eux pourrait être le tireur et l'autre son complice présumé. 2 hommes qui étaient très activement recherchés depuis 4 jours par une 100aine d'enquêteurs de la police judiciaire. Alors ce matin, on ne connaît pas encore le profil de ces suspects, mais on sait qu'ils sont déjà connus des services de police. Ils viennent de passer la nuit en garde à vue et doivent répondre aux accusations de meurtre sur un policier, un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les précisions de Guillaume Bier pour Europe 1. Dans un tweet cette nuit, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a félicité la police nationale pour cette interpellation. Ce crime, écrit-il, ne doit en aucun cas rester impuni.
La fermeté face aux violences et à la délinquance, c'est aussi ce que réclament les syndicats de policiers qui seront reçus aujourd'hui à Matignon.
Et ce alors qu'encore ce week-end, les forces de l'ordre ont été visées à Fréjus, dans le Var. Une intervention pour non-respect du couvre-feu a tourné à l'affrontement. Davido Roverdi, du syndicat Alliance, dénonce un guet-apens.
Cet épisode hyper violent qui a quand même duré plus de 3 heures a lieu juste à un contrôle parce que des individus se trouvaient à 23 heures dehors alors que c'est interdit. Sauf que derrière, c'est un véritable guet-apens. On a 3 collègues blessés. La montée de la tension, malheureusement, elle n'est pas que dans le sud. Aucun territoire de la République n'est épargné par cette gangrène qui se croit tout permis. Ce n'est pas un sentiment d'impuissance qui existe. C'est un sentiment d'impunité. Ils savent très bien qu'ils ne risquent rien pénalement. Ils savent très bien qu'il y aura toujours une excuse parce qu'ils sont mineurs. Ça fait que derrière, ils continuent allègrement. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement.
Le secrétaire national province du syndicat Alliance, Davido Roverdi, joint par Laura Taouchanoff pour Europe 1. Et bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour à tous.
On vient de l'entendre, ce sentiment d'impunité dénoncé. Face à ces violences, l'exécutif est sommé de réagir.
Oui, avec cette idée qu'Emmanuel Macron ne serait pas à la hauteur ni à l'aise avec les questions d'autorité et de sécurité. Un soupçon qui se base notamment sur la hausse de 25% des affrontements entre bandes sur un an. Des statistiques à mettre en parallèle avec la forte baisse des vols à main armée ou la stabilisation des homicides. Mais qu'importe les chiffres, le ressenti de l'insécurité existe et la politique fait son œuvre. Les oppositions bouffent dessus, s'agace un membre de cabinet. À l'Élysée, on reconnaît une lassitude collective après les récents faits divers, une banalisation de la violence. Il y a peut-être un problème de récit car il y a des actes, veut croire à un conseiller qui rappelle les investissements dans le matériel des policiers, les 10 000 recrutements, on remet des gens sur le terrain, plaide ce proche du président. Emmanuel Macron peut-il changer son image sur la sécurité, cet angle mort ? Au sommet de l'État, on affirme que les moyens déployés depuis 2017 finiront par payer. Mais certains macronistes réclament déjà une meilleure réponse judiciaire. Il y a un problème d'exécution de la justice, confie un proche du président. Il faut secouer plus fort, renchérit un important député.
Secouer, c'est aussi ce que veulent ces militaires qui signent une nouvelle tribune. Elle a été dévoilée hier soir sur le site internet de Valeurs Actuelles. Alors cette fois, il s'agit de militaires en fonction, pas de généraux à la retraite. Mais eux aussi dénoncent l'inaction de l'État en matière de sécurité.
Oui, mais si cette deuxième tribune a été lue très attentivement hier soir à l'Élysée, où l'on veut plutôt y voir d'ailleurs une pétition, elle ne fait pas particulièrement trembler le gouvernement. Il faut savoir entendre les signaux, mais ne pas surréagir, explique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. 2021, ça n'est pas l'Algérie de 1961. La période ne permet pas toutes les caricatures, tempête un conseiller. Au sommet de l'État, certains font même remarquer que les tensions entre l'armée et le pouvoir ne sont pas nouvelles. Même à l'époque de Sarkozy, il y avait des grincements de dents, ces larvées ancestrales, commente un proche du président. Et ça n'est pas qu'une question d'argent, puisque le dernier budget des armées est en hausse de 4,5%. Ces tribunes sont donc avant tout politiques et particulièrement symboliques. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a aussi joué des symboles ce week-end. Lors de la commémoration du 8 mai, samedi, le chef de l'État a longuement conversé devant les caméras avec les chefs d'état-major. Une image de président chef des armées. Mais selon son entourage, les tribunes de militaires n'ont pas été abordées au pied de l'Arc de Triomphe.
Un décryptage de Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1. L'inaction de l'État également dénoncée hier, mais sur un tout autre sujet, sur le climat. 115 000 manifestants selon les organisateurs, et ce alors qu'aujourd'hui le Sénat examine la proposition de la Convention citoyenne visant à inscrire la préservation de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution.
7h07 sur Europe 1, le procès du meurtre d'Arthur Noyer, deuxième semaine d'audience avec aujourd'hui les experts psychiatres à la barre.
Marion Dubreuil, vous suivez ce procès pour Europe 1. Aujourd'hui, il s'agira bel et bien de comprendre la personnalité de Nordal Lelandais qui, jusque-là, a toujours maintenu à la thèse de l'homicide involontaire.
Oui, un homme inaccessible à l'empathie ou à tout sentiment de culpabilité. Face aux experts, Nordal Lelandais a bien tenté de passer pour un fou qui entend des voix. Il n'a pas convaincu. Les psychiatres y ont plutôt vu une stratégie. L'ex-militaire est manipulateur, menteur. Il met en avant un mode de vie viril et narcissique pour ne pas paraître faible. Il consomme de l'alcool, de la drogue, multiplie les relations sexuelles pour rester toujours en tension, dans une dynamique de puissance radicale, estiment les psychiatres. Vanessa, l'une de ses ex-compagne, a expliqué à la cour qu'il l'avait initiée au sadomasochisme. Elle l'a soumise, lui, le dominateur. Richard, qui a été son amant quelques mois avant le meurtre d'Arthur, a raconté le scénario de leurs ébats, la simulation d'un enlèvement par Nordal Lelandais habillé en treillis militaire. Pour les experts, c'est comme ça que l'accusé parvient à se sentir au-delà de la condition humaine, au-delà du bien et du mal.
Les précisions de Marion Dubreuil pour Europe 1.
Nouvel élargissement de la campagne de vaccination cette semaine. Et ça commence dès aujourd'hui.
Avec l'ouverture des injections aux plus de 50 ans sans comorbidité, à partir de mercredi, tous les adultes pourront y prétendre avec une réservation la veille pour le lendemain. Et dans cette campagne de vaccination, l'Europe en passe de renoncer à recourir à l'AstraZeneca. Pour l'instant, en tout cas, le contrat avec ce laboratoire n'a pas été renouvelé. Hier, Emmanuel Macron a estimé que pour répondre aux variants, d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces.
Avant le pont de l'Ascension, c'est un premier week-end de liberté qui vient de s'achever. Plus de limitations de déplacement, vous avez été nombreux à en profiter. Reportage ce matin dans la Manche, auprès d'un couple de camping-caristes qui visent à présent les terrasses et le Tour de France. Nicolas Feldman pour Europe 1.
Quand ils ont dit on est libéré des 10 km, on a renettoyé l'intérieur, rempli et... sur la route.
Le drapeau normand remis bien en évidence sur le pare-brise, cap sur les côtes pour Martine et Jackie.
On est parti de Conches-en-Ouche et on a passé Bernay, Lisieux, Caen.
On a roulé quand même, on a 250 km.
Ça change des 10 km, 250 km. Ça veut dire libération un peu hein, quand même.
La libération, c'est aussi de retrouver le contact humain. Juste à côté, une dizaine d'autres camping-cars s'alignent.
Ça permet de recontacter, rencontrer des gens. Regarde, ce matin, on peut discuter avec les gens qui faisaient leur vidange d'eau et tout, c'est ça. Il y a l'amitié qui se recrée, quoi.
Et l'espoir de renouer avec la vie d'avant.
Nous, on est vaccinés, alors maintenant...
On a eu le deuxième rappel et tout, on est peinards, on peut aller manger d'un... Dès que ça rouvre, on va manger d'un petit resto, on a notre carte, nickel. Là, on va repartir au Tour de France en juin.
On a déjà rendez-vous à côté d'Agen. Et le lendemain, on repart...
Pour les Pyrénées.
Ben oui, oui, oui.
Voilà, c'est le retour de la vie, c'est ça.
Port-Bail, Nicolas Feldman, Europe.
Et ce sera l'un des sésames pour les vacances, le pass sanitaire, disposition contenue dans le projet de loi de sortie de crise sanitaire qui sera présenté aujourd'hui aux députés.
Le foot à présent, avec ce match nul, un partout hier soir contre Rennes, à deux journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain qui laisse filer Lille en tête de la Ligue 1.
Oui, Julien Froment, trois points séparent désormais les deux équipes. Le LOSC n'avait pas failli vendredi contre Lens. Alors est-ce que les Parisiens, avec ce match nul, ont dit au revoir hier soir à un sacre en Ligue 1 ?
Des cadres décevants, une équipe fébrile mentalement et physiquement, à l'image de l'expulsion du défenseur Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain est en train lentement mais sûrement de dire adieu à son titre de champion de France. Politique de l'autruche ou foi inébranlable en son équipe, l'entraîneur Mauricio Pochettino refuse d'abdiquer.
Non, pas encore.
Dans le football, il peut se passer plein de choses. Nous sommes déçus, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on doit gagner les prochains matchs pour espérer quelque chose.
Mais les Lillois semblent intouchables, c'est l'avis de l'entraîneur rennais Bruno Genesio.
En tout cas, sur ce qu'on voit, Lille, s'ils sont champions, ils mériteront parce qu'ils ont gagné à Paris, ils ont gagné à Lyon. Ils ont fait une saison complète, c'est une vraie équipe.
Pour être champion, il faudrait un miracle. Le Paris Saint-Germain n'a plus son destin entre ses mains. Il attend désormais un faux pas du leader lillois qui jouera contre Saint-Étienne et Angers, deux équipes déjà assurées du maintien en Ligue 1. Rennes, Julien Froment, Europe 1.
La colère du syndicat de joueurs de rugby contre le nouveau protocole sanitaire décrété pour le top 14 et la Pro D2. Face à la recrudescence des cas, la Ligue a décidé d'imposer 3 tests PCR hebdomadaires. Sont aussi visés les entraînements, douches à la maison imposées pour les joueurs et les matchs pas d'accolade lors des essais. Quasiment inapplicable selon le syndicat Proval qui représente donc les joueurs de rugby.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 7h40 tout à l'heure, je reçois Mickaël Oliou-Barton, mathématicien, économiste, maître de conférences à Paris Dauphine. C'est le co-auteur d'une étude comparative sur les différentes stratégies de lutte contre le Covid des pays de l'OCDE. Vivre avec le virus, comme nous le disons beaucoup en Europe, ou alors stratégie zéro Covid, comme l'Australie, le Japon, la Corée. Ils sont 8 chercheurs à défendre des confinements plus durs, plus immédiats, mais moins longs. Selon eux, la stratégie zéro Covid protège mieux la santé, mais aussi l'économie et nos libertés, ce n'est pas rien. C'est le programme du Tête à Tête Europe Matin, on va détailler à 7h40 tout à l'heure. Mais tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et la crise qui a changé le regard des salariés sur les entreprises, plutôt en bien, vous allez voir pourquoi.
Juste avant le regard international, Vincent Hervouette, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors que les pays lèvent les uns après les autres les contraintes du confinement, un an de crise a profondément changé le rapport des salariés au travail et à leur entreprise.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le cabinet Nocom avec l'IFOP. On aurait pu penser, vous savez, qu'avec la crise, avec l'éloignement dû au télétravail d'une partie des salariés, eh bien, les liens se seraient distendus. Eh bien, c'est tout le contraire. 80% des salariés se disent satisfaits de leur situation professionnelle. C'est 6 points de plus qu'avant la crise. Et près de 60% pensent que cette année difficile, finalement, a renforcé l'attachement à l'entreprise, comme si l'éloignement, au fond, avait produit un manque. D'ailleurs, 81% des salariés sont même prêts à dire, figurez-vous, qu'ils aiment leur entreprise. Ils considèrent que les entreprises ont fait preuve d'une très grande capacité d'adaptation. Finalement, on peut dire que l'image du secteur privé, qui s'est beaucoup mobilisé, qui a été très réactif, sort renforcée.
Le regard sur le rôle social de l'entreprise évolue aussi.
Oui, alors avant la crise, avant le Covid, on parlait déjà pas mal, vous savez, de raison d'être des entreprises, de leur rôle social, environnemental, etc. La crise a vraiment renforcé cela. 87% des salariés pensent qu'au-delà de son activité économique, l'entreprise joue un rôle au sein de la société, un rôle plus large. C'est 11 points de plus qu'avant la crise. Le regard aussi est en train de changer. Et puis, les Français, au fond, sont plus positifs et confiants qu'on ne le croit ou que l'impression qu'ils donnent. Ils sont, par exemple, les deux tiers à se déclarer optimistes pour leur vie professionnelle après la crise sanitaire. C'est bon signe, ça signifie qu'ils croient à la reprise, ils croient au rebond.
Oui, un an après crise dans lequel le rapport au travail va évoluer.
Oui, alors ça c'est clair, le télétravail que beaucoup ont réellement découvert est plébiscité. 84% des salariés le jugent positif ou très positif, alors même que tous les métiers ne s'y prêtent pas de la même façon. En même temps, ils sont conscients que ça peut poser des problèmes. Les diplômés, les cadres supérieurs se plaignent à 70% d'un sentiment de perte de lien et même d'isolement. On voit donc bien qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre. C'est important car pas loin de la moitié des salariés songent aussi à changer de vie professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais les employeurs qui retiendront leurs employés sont ceux qui auront su finalement organiser le travail différemment tout en maintenant le lien. C'est le défi des nouveaux accords de télétravail qui sont en cours de négociation en ce moment dans des milliers d'entreprises.
Oui, c'est le défi, ce challenge pour les entreprises, finalement, garder leurs salariés aussi. Les évolutions, l'après-crise. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h18.
Le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hier, la parade annuelle à Moscou et un discours au canon de Vladimir Poutine.
Oui, quand la capitulation allemande a été signée, il était 23h à Berlin et 1h du matin à Moscou. Ça fait donc 76 ans que les Russes et les anciennes républiques soviétiques fêtent la victoire sur les nazis tout seuls, sans être synchrones avec les alliés, le 9 mai et pas le 8, mais en grande pompe. Et il fallait voir hier Vladimir Poutine, impérial, au milieu des vétérans et des cadets, saluant chacun, martial et familier, sans masque. C'était Napoléon au milieu de la grande armée. Les régiments d'élite ont défilé aux ordres du ministre de la Défense, en grand uniforme, et du chef d'état-major, chacun debout dans une considérable décapotable qui ressemble à une Rolls comme le Tupolev 144 ressemblait au Concorde.
Le 9 mai, la fête nationale.
Oui, et en conséquence, Moscou ressort les faucilles et les marteaux. Le drapeau rouge, comme celui planté sur le toit du Reichstag à Berlin, se marie avec le drapeau blanc-bleu-rouge de la Fédération de Russie, comme les antiques chars T-34 défilent avec les blindés de dernière génération. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est le puits du chou. La mise en scène du roman national, et comme tous les romans russes, il est tragique, interminable, c'est un roman noir. Il y a eu 20 millions de morts. Au temps des soviets, les communistes célébraient la paix. Poutine, lui, fête la victoire. L'opinion l'approuve. Le 9 mai, 44% des Russes ressentent de la joie, 22% pleurent et les autres font les deux à la fois.
Oui, c'est possible. Dans son discours, Vladimir Poutine a proclamé que la Russie défendrait toujours ses intérêts.
C'est son rôle. Il a aussi dénoncé le retour de la russophobie, comme au temps des nazis. Alors elle est réelle, il y a eu autant d'expulsions de diplomates qu'au pire de la guerre froide, des sanctions difficiles à lever comme celles prises après l'annexion de la Crimée et une cyberguerre dans l'ombre. La Russie voudrait que l'Europe reconnaisse qu'elle l'a libérée des nazis et elle veut être traitée en grande puissance. Elle n'arrive à rien. Aucun invité européen hier sur la place Rouge. Emmanuel Macron avait déclaré forfait l'an dernier et promis de se rattraper cette année, mais il avait mieux à faire. En France, le 9 mai, c'est juste la veille du 10 mai et le 40e anniversaire d'un événement historique, autrement plus important, évidemment.
Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci Vincent Hervouet, Le Regard International. C'est tous les matins et c'est sur Europe 1. Il est 7h20, dans un instant, l'édito sport Virginie Fulpin. Et juste après, on retrouve Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. L'expression « donner le change », d'où ça vient ? Eh bien, vous allez être surpris dans un instant.
La réponse dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les handballeuses de Nantes, championnes d'Europe. Les Nantaises ont remporté la Ligue européenne en dominant les Hongroises de Siofok 36-31 hier. On dit bien Siofok, ça se prononce comme ça Virginie?
C'est ça, voilà.
Pour vous, on doit se rendre compte que ça fait partie des victoires qui marquent l'histoire du sport collectif français.
Il y a des surnoms prédestinés. Les Roses, c'est celui des Nantaises qui mettent des couleurs au cœur du printemps sportif français, championne d'Europe. Si on nous avait dit ça au début de la saison, personne n'y aurait cru. Nantes n'avait jamais participé à une phase finale européenne. Il y a 10 ans, cette équipe évoluait encore au 3e niveau national. L'entraîneur n'est arrivé que l'été dernier et le président carrément au mois de janvier. Avouez que ça ressemble plus à la description d'un petit poussé en train de grandir que d'un ogre européen. Personne n'y aurait cru. Sauf elle. En sport, on parle souvent de la force du collectif, sans toujours savoir exactement ce que cache cette expression toute faite. Mais hier, on a vu se matérialiser cette idée de collectif sous nos yeux. En finale, les Nantaises ont fait tomber les Hongroises de Siofok, les tenantes du titre, archi-favorites, en frissonnant à peine en fin de match. Elles les ont dominées de la tête et des épaules, parce qu'elles étaient ensemble, avec un objectif commun et une solidarité qui déjoue tous les pronostics des rencontres jouées d'avance. C'est ça aussi la beauté du sport, la meilleure réponse à tous ceux qui rêvent de ligues fermées, où seuls sont invités à la fête ceux qu'on attend. Non, non, ce qui nous embarque dans des moments hors du temps, ce sont ces divines surprises que personne n'avait vu venir.
C'est aussi la meilleure réponse à une saison très compliquée pour le handball.
Des cris, des pleurs, des rires et des sourires pour oublier les tribunes vides. Les Nantaises nous ont offert une ode à la joie hier pour conclure et exorciser les démons d'une saison en enfer pour tous les sports de salle. Cette année sans public a fragilisé les clubs, éloigné les supporters et les pratiquants. Et cette victoire des Roses ne peut que redonner du baume au cœur à un secteur en souffrance. Elles ont gagné pour elles, bien sûr, pour leur club, mais aussi pour tout le handball français et pour les cousins du basket et du volley. Mon seul regret ce matin, c'est que ces finales européennes qui nous transporte ne soit pas plus visible par tout le monde à la télévision, à l'heure où le sport français va chercher à récupérer tous les sportifs en herbe perdus pendant la crise sanitaire. Le sacre européen des Nantais, c'est la meilleure publicité, le meilleur argument pour revenir dans les gymnases. Il ouvre le champ des possibles, nous invite à y croire, célèbre la force d'une équipe et les émotions qu'offre le sport. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Rien, juste dire bravo.
Eh bien, on dit bravo. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport avec vous tous les matins aux alentours de 7h20. Il est 7h26 et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une expression qu'on utilise encore de nos jours. Enfin, j'espère que vous ne pensez pas en votre fort intérieur. Bon, une fois n'est pas coutume. Cette expression, c'est donner le change.
Ah oui, donner le change. C'est quand on n'est pas forcément convaincu par son interlocuteur, mais qu'on décide de faire comme si on était d'accord. Il y a une petite malhonnêteté de la part de la personne qui donne le change.
Oui, vous allez voir que l'expression à l'origine n'a rien à voir avec les petits mensonges entre amis. Donner le change vient du XVIIe siècle, de la chasse, plus particulièrement de la vénerie. Vous savez, une pratique aristocratique que certains aimeraient voir perdurer au mépris de la souffrance animale. Enfin, passons. Quand la chasse est lancée avec les chiens, un seul animal est poursuivi. Le change va ainsi désigner tous les animaux qui seront pourchassés en deuxième, troisième ou quatrième choix. On dit alors que la première cible a donné un animal de change aux chasseurs. À ces derniers et aux chiens de prendre le change ou non, à savoir changer de proie avec le risque de la lâcher pour l'ombre. Aujourd'hui, en anglais, on dit « a smoke screen », c'est un écran de fumée. En Argentine, on préfère « meter la mula », qui veut dire « on met le mulet ». Une façon de dire qu'on remplace par moins bien qu'un cheval, forcément. Et enfin, chez nos amis néerlandais, on dit « laisser faire le tour du jardin », une façon de balader quelqu'un. Voilà, sur les faux-semblants, souvenons-nous de ce que disait André Gide, « on veut donner le change et l'on s'occupe de tant paraître qu'on finit par ne plus savoir qui l'on est ». En toute honnêteté, je pense que ça ne vous concerne ni vous ni moi, Mathieu.
Oui, on va espérer en tout cas. Merci. Stéphane, on va vous retrouver tout à l'heure à 16h avec Mathieu Noël. Bien sûr, c'est historiquement vôtre.
Oui, aujourd'hui, on réunit la comtesse Potocka, Salvador Dali et Gala, qui ont organisé de nombreuses soirées de gala, forcément, et Thierry Ardisson. Leur point commun, ils organisent des dîners mondains. Le dernier les a même filmés, imaginez-vous.
on le reconnaît évidemment. Stéphane Bern à tout à l'heure, 16h avec Mathieu Noël. C'est historiquement vôtre. Et à 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol. C'est l'heure de la météo.
Oui, avec une météo qui bascule. Elle bascule de l'ouest vers l'est. Hier, les orages étaient violents sur la façade atlantique. Plus exactement, un petit peu plus dans les terres, à 100-150 km des côtes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons retrouver ces orages sur la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, l'Auvergne, la vallée du Rhône, la région Rhône-Alpes, le Languedoc, le delta du Rhône et la Provence et la Côte d'Azur. En fait, toutes ces régions sont les régions, j'allais dire à haut risque, oui, parce qu'il y aura des orages, mais aussi avec pas mal de pluie dans ces contrées. Ailleurs, ce sont les averses, puisque les pluies sont passées hier, et bien nous aurons des averses sur le littoral de la Manche, l'ensemble des régions qui bordent la Manche, sur le Poitou-Charentes, la vallée de la Loire, un petit peu moins d'averses dans le sud-ouest et le Poitou-Charentes, et puis un mot quand même sur l'Île-de-France, où ce sera un régime d'averses tout au long de la journée. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de chance de voir le soleil durablement. Voilà pour une journée pas terrible, avec des températures qui baissent entre 17 et 22 degrés. Je disais tout à l'heure, nous perdons parfois 5, 6, 7, 8, 9 degrés. C'est énorme et ça va continuer. La semaine ne sera ni trop mauvaise, ni trop mauvaise, avec des passages comme aujourd'hui, nuages, éclaircies, averses et des fronts qui vont traverser le pays. La meilleure journée sera mercredi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
C'est des filtres qu'on a dans les salles d'opération. Ils filtrent 99,995%.
Des purificateurs d'air dans un cinéma de Strasbourg, l'Odyssée se prépare à retrouver enfin ses clients. L'arrestation du tueur présumé, du policier d'Avignon et de son complice hier soir. Alors qu'hier après-midi, les collègues d'Éric Masson lui rendaient un vibrant hommage. Nous y étions. Et puis il y a 40 ans, François Mitterrand arrivait au pouvoir, provoquant la panique chez les patrons. Le récit et les anecdotes de Lord d'Autriche à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Mickaël Oliou-Barton, mathématicien économiste, avec 7 autres chercheurs. Il publie une étude comparative sur les différentes stratégies de lutte contre le Covid. 7h50, l'édito politique de Nicolas Bétou.
Il y a 40 ans, François Mitterrand était élu à l'Élysée. Pour le Parti Socialiste, c'est aussi gai qu'un jour de deuil.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit l'avocat Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dès ce matin, si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez aller vous faire vacciner sans aucune condition. Et à compter de mercredi, la vaccination sera accessible aux plus de 18 ans lorsqu'un créneau de vaccination sera disponible la veille pour le lendemain.
La France qui est par ailleurs repassée sous le seuil des 5000 patients en réanimation.
Et c'est la première fois depuis le 19 mars, signe de jour meilleur et de retour de la vie d'avant. Et ça commence dès mercredi de la semaine prochaine avec l'ouverture notamment des cinémas. Imaginez, ils auront été fermés 299 jours. Alors question, les cinéphiles vont-ils se ruer dans les salles obscures ou attendre un peu? Si vous hésitez, Europe 1 vous fait visiter le tout premier cinéma de France à avoir installé des purificateurs d'air. Et on voit comment ça fonctionne avec Arthur Mbaché.
Entre la scène d'ouverture de votre film et le générique de fin, l'air de la grande salle de l'Odyssée aura été entièrement renouvelé une douzaine de fois. 1400 mètres cubes, le volume de la salle, il faut 5 purificateurs installés par Christian Schump de la société allemande Trotec.
Donc l'air est aspiré par le bas.
Dans la machine ?
Dans la machine, naturellement. Passe par le filtre H14. C'est, pour exemple, c'est des filtres qu'on a dans les salles d'opération. Ils filtrent 99,995% des particules.
À ma connaissance, nous sommes la première salle de cinéma de France à être dotée de purificateurs et je dois dire que je suis très content.
Farouk Gounaltaï dirige le cinéma L'Odyssée de Strasbourg.
C'est évidemment un investissement conséquent, 25 000 euros, mais tout ce qui est humainement possible pour assurer une sécurité optimale a été fait.
Ce petit son qu'on entend, c'est un peu gênant.
Je ne pense pas que ça va être gênant du tout. C'est une légère soufflerie. C'est le murmure de la sécurité sanitaire.
On est présent, nous dit l'installateur des purificateurs, dans des maisons de retraite, des hôpitaux, des écoles, des salles de sport, par centaines en Allemagne. En France, dit-il, les commandes, ça commence tout juste. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
L'enquête avance sur la mort d'Éric Masson, tué alors qu'il intervenait sur un point de deal.
Deux suspects, deux hommes interpellés hier soir vers 22h30 près d'Avignon. Ils ont été placés en garde à vue. Il pourrait s'agir du tireur et de son complice. Ces interpellations sont intervenues quelques heures après un hommage très émouvant rendu au brigadier. Environ 5000 personnes, policiers et citoyens, rassemblés devant le commissariat Stéphane Frangy.
Une foule compacte dans la cour du commissariat qui déborde jusque sur la chaussée et les lignes de tramway des riverains. Comme des policiers en civil avec un brassard barré de noir, certains ont fait de la route comme Antoine depuis Grasse.
Je tenais à être là pour notre collègue qui est parti. Encore, mais voilà. Lâchement abattu comme ça, ça devient très compliqué pour nous. Moi j'aime encore mon métier. Jusqu'à quand, je ne sais pas. J'espère tout pour toujours.
Autour d'une minute de silence, un portrait d'Éric Masson est exposé sur un chevalet près des fleurs et des livres de condoléances, entre tristesse et colère pour Albéric Marmont, un ancien de ce commissariat.
Je suis bouleversé parce que c'est la deuxième fois que j'ai assisté à une cérémonie en l'honneur de policiers morts en service. Deux fois trop, c'est inadmissible. Voilà. Mais on en a marre.
Et parmi les policiers présents, beaucoup comme Claude témoignent de leur inquiétude après ce drame dans un quotidien de plus en plus marqué par la violence.
Ça fait 25 ans que je suis dans la police, ça devient de plus en plus dangereux, il n'y a plus aucune petite mission, ça n'existe plus. On l'a vu là, c'est notre collègue, c'est une mission qu'on fait moins 10-15 fois par jour.
Et les revendications de la profession seront portées ce lundi au Premier ministre par les représentants syndicaux. Avignon, Stéphane Frangy, Europe 1.
Ce témoignage, à présent, celui d'une femme de 80 ans qui a poursuivi une vingtaine de multinationales ayant fabriqué l'agent orange pendant la guerre du Vietnam.
Tran Tonya a presque 80 ans. Aujourd'hui, elle a décidé d'être la voix des millions de victimes vietnamiennes de cet herbicide pulvérisé pendant la guerre. Elle-même se bat contre un cancer, mais n'a jamais renoncé à son combat.
C'est le dernier combat de ma vie pour moi, parce que j'ai pas arrêté de me battre pour le Vietnam, pour mon pays. Et si je ne le fais pas, le drame de l'agent orange serait à jamais enseveli dans la poussière du temps et puis du passé, parce que le crime est un crime jusqu'à présent impuni.
Qu'est-ce que vous, il vous a causé cet agent orange ?
L'agent orange m'a rendu très malade, mais le plus grave, c'est le malheur pour mes enfants. J'ai perdu une fille. Les deux autres sont nés avec des malformations aussi. Et mes filles ont déjà transmis leur maladie à leurs enfants. Mais sincèrement, ce n'est pas pour moi que j'ai fait ce procès. Aujourd'hui, au Vietnam, il y a plus de 4 millions de victimes. qui vivent dans la misère, dans les souffrances. Et aujourd'hui, avec fierté, je peux vous dire que tout le monde me soutient. Alors c'est pour ça que ça me donne le courage aussi.
Trintonia au micro de Justin Morin et le tribunal d'Evry se prononce aujourd'hui sur cette affaire.
Il y a 40 ans, François Mitterrand arrivait au pouvoir, semant la panique chez certains patrons d'entreprise.
Oui, il faut se rappeler du contexte de l'époque. La droite n'y avait pas cru jusqu'à l'élection, mais ensuite ça a été courage fuyant lors d'Autriche.
Quelques heures après l'élection de François Mitterrand, des Français fortunés, affolés, sortent des banques avec des valises et des sacs poubelles pleins de billets. Certains partent en voiture en Suisse mettre leur argent à l'abri, craignant de voir Mitterrand tout nationaliser et confisquer leurs biens. À la frontière suisse, les douaniers saisissent alors des sommes colossales, raconte à l'époque le journaliste d'Europe 1, Henri de Stadelhoffen.
Le butin qu'elles ont récolté dans la seule journée d'hier est édifiant. Près de 9 millions de francs dissimulés dans 3 autos. Et quant aux cachettes, m'a révélé un spécialiste, nous les connaissons bien. Derrière le radiateur, dans le capitonnage des sièges, dans les enjoliveurs de roues, nous avons aussi découvert des rouleaux de billets enroulés dans du plastique autour de la jauge d'huile.
La bourse de Paris est secouée, le cours du franc suisse s'emballe. Une partie des Français ancrés à droite craint aussi l'arrivée de ministres communistes au gouvernement, comparés alors à des bolcheviks qui débarqueraient à Paris. Mais le premier gouvernement de François Mitterrand ne comptera finalement aucun ministre communiste.
Les précisions de l'ordre d'Autriche pour Europe 1.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier, c'était le journal de 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La colère des policiers ce matin. Thibaut de Montbrial est l'invité de la matinale. Fréjus, Avignon aussi. Les suites, l'indignation, les hommages et les arrestations. Thibaut de Montbrial répond aux questions de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15. Dans un instant, vivre avec le virus ou stratégie zéro Covid. Je reçois Mickaël Oliou-Barton, co-auteur d'une étude sévère. Cette étude sévère avec les choix de la France en matière de stratégie contre la pandémie. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, la Toucham. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu. La famille royale britannique est dans le besoin. Si vous voulez les aider, il faut picoler.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h40 sur Europe 1 et c'est l'heure de la touche âme comme tous les matins. Le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, la crise du Covid n'épargne personne. Alors je ne parle pas du plan machiavélique de Laurent Ruquier qui a réuni samedi sur son plateau tous ses concurrents. Fête de la radio, mon œil. Il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Après on n'est pas couché et on est en direct, on n'est qu'à contact. Yves Calvi positif et ça fout le merdier sur toutes les stations. Démoniaque. Bref, la crise du Covid n'épargne personne, disais-je, pas même la monarchie britannique. La pandémie a fait perdre 20 millions de livres sterling à la reine Elisabeth II, qui malgré ses 95 ans ne touche toujours pas de retraite chapeau. Blague économie et style pour les amateurs. Sa fortune personnelle est maintenant estimée à 350 millions de livres seulement. C'est terrible. Elle est même désormais devancée par Rihanna. Alors pour renflouer les caisses de Buckingham, la reine aurait pu, comme la chanteuse, lancer sa propre marque de lingerie. Mais curieusement, non. Puis elle est plus gaine, c'est Stéphane Bern qui me l'a confirmé. Donc pas de lingerie, mais CNN a révélé l'info, la reine Elisabeth II lance sa propre marque de bière, ouais, une bière bio conçue avec les herbes qui poussent dans son domaine de Sandringham. Elle est déjà disponible à la vente à la boutique officielle du domaine et les bénéfices serviront à la conservation de leur collection d'art. Toujours volontaire quand il s'agit de soutenir la famille royale et l'art, notre ami Stéphane Bern se serait déjà fait livrer 10 cartons de bière. Pour renflouer les caisses, j'ai décidé de m'en mettre une, m'a-t-il confié. Le souci, c'est que depuis, on le tient plus, quoi.
Youhou ! Allez là ! Je suis complètement pompette. Je suis rabat.
Ah, il écoute les Sex Pistols à fond dans l'open space. Il a même écrit Fichtre sur les murs de la radio au feutre effaçable. Quel doudingue. Non Stéphane, les doigts d'honneur c'est avec le majeur. Et mollo sur la bière royale Stéphane. Oh, il va avoir un de ces mâles de crown demain. Bon, je vous laisse le gérer. En attendant, je vous rappelle que vous retrouvez Stéphane à 16h dans Hystériquement Votre. Bonne journée.
Le mâle de crown, celui-là je la garde. Yeah. Celui-là je la garde. Peut-être à réutiliser certains dimanches matin, le mâle de crown. La Toucham, tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Et vous savez quoi? Un peu de Sex Pistols ce matin, ça fait du bien. Parce que certains auraient peut-être un peu de mal à se réveiller. Voilà, Europe 1 est là pour vous sortir du lit. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Plus d'un an de pandémie et aujourd'hui... Eh bien du recul finalement, de quoi dresser quelques bilans comparés sur toutes les différentes stratégies entre pays. 8 chercheurs publient une étude comparative entre pays de l'OCDE, entre ceux qui ont opté pour le zéro Covid et ceux comme nous qui affirment qu'il faut vivre avec le virus. Vous allez l'entendre, cette étude n'est pas du tout tendre avec nous, nous pays européens. Et parmi ces chercheurs, on retrouve Mickaël Oliu-Barton, mathématicien, économiste, maître de conférence à Paris Dauphine.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Mickaël Oliu-Barton, bonjour.
Bonjour Mathieu, merci.
Alors le premier enseignement de cette étude que vous publiez, c'est que l'économie, la santé, les droits et libertés individuelles, tout ça, c'est compatible avec une stratégie zéro Covid. Alors je voudrais d'abord qu'on définisse ensemble et d'un mot ce que sont ces différentes stratégies. Zéro Covid contre vivre avec le virus, on peut le dire comme ça ?
Oui, alors zéro Covid, c'est un nom un peu provocateur. Il faudrait plutôt dire viser une circulation du virus au plus bas et surtout veiller à la maintenir au plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle zéro Covid. Alors que vivre avec, c'est plutôt attendre que le nombre d'infections monte jusqu'à ce que ça soit trop inquiétant. Et pour éviter la saturation des hôpitaux, on prend des mesures progressivement à ce moment-là.
Oui, des mesures plus light, plus tardives. L'idée qu'il faut peut-être aussi s'habituer, justement s'adapter, alors que le zéro Covid sont des mesures choc immédiates et une forme de tolérance zéro au virus. Alors, les pays que vous identifiez comme une claire stratégie zéro Covid, je les cite, Islande, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et Japon. On est d'accord qu'on a 5 îles et une péninsule, ça joue quand même.
On est d'accord que quand on est une île, c'est plus facile de contrôler les frontières. Il y a 5 pays parmi les 37 de l'OCDE qui ont suivi cette approche, ce sont des îles ou presque. Mais il y a aussi des pays qui ne sont pas dans l'OCDE, citons le Vietnam, la Chine, qui ont suivi cette approche avec succès. Non, il ne s'agit pas de prendre des mesures plus strictes, c'est une question plutôt de les prendre au bon moment. C'est-à-dire prendre les mesures très rapidement permet d'être ciblé et donc de ne pas pénaliser un pays entier quand on peut simplement agir sur une ville, sur un département de manière très ponctuelle pendant 3 jours, 5 jours, une semaine, au lieu d'attendre que le virus circule partout et qu'on n'ait pas le choix que de confiner tout un pays, voire tout un continent.
Et on va voir comment ça se manifeste aujourd'hui. Mais depuis le début de cette pandémie, on essaye d'équilibrer les priorités, la santé, l'économie, nos droits aussi, hein, nos libertés qui sont entravées. Et vous nous dites, c'est ça qui est important, que la stratégie zéro Covid, on l'appelle comme ça, hein, oui. Eh bien elle gagne sur tous les fronts.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on entend toujours qu'il y a un arbitrage à faire entre l'économie et la santé. Il faut rouvrir pour l'économie, même si ce n'est pas bon pour nos hôpitaux. Et en fait, on se rend compte en analysant des données qu'on a maintenant. Donc il y a un an, on ne les avait pas. Maintenant, on a un peu du recul. Et c'est notre responsabilité de tirer les enseignements. On regarde en arrière et on voit qu'effectivement, les pays qui ont suivi zéro Covid, ils ont eu 25 fois moins de morts. Bon, d'accord, ça déjà, ça a de quoi nous hérisser le poil. Mais on se dit, bon, d'accord, mais nous, on s'en sort mieux économiquement. Ben, en fait, non. On a 10 points de moins de PIB et même la croissance du PIB, semaine après semaine, elle est moins bonne dans nos pays. Et on dit, bon, d'accord, mais parce que nous, on pense aux libertés individuelles. On veut garder notre démocratie. Les pays qui font ça, ils sont...
Bah, écoutez, Mickaël Oliu-Barton, je vous propose d'écouter, on va faire très simple, Emmanuel Macron, pas plus tard qu'hier, hier après-midi, à Strasbourg, avec ses homologues européens. Écoutez.
J'entends comme vous les voix de toutes celles et ceux qui nous expliquent qu'au fond des régimes autoritaires, serait plus efficace face aux crises. C'est sûr, si nous oublions les véritables conséquences des régimes autoritaires, les privations de liberté, les séquestrations d'opposants politiques, l'enfermement des journalistes ou des universitaires, on peut penser que c'est agréable quand ça n'est que théorique. Ils ont oublié la morsure du temps et de l'histoire, ceux-là qui défendent cette voie.
Alors, je crois que vous n'êtes pas d'accord, Mickaël Oliu-Barton. Vous avez oublié la morsure du temps et de l'histoire.
Alors, exactement. C'est qu'on nous opposait l'argument de la liberté. Et donc, on a pris une mesure de la liberté ou des restrictions développées par l'université d'Oxford. On regarde les fermetures, les restrictions de mobilité. On essaie de prendre en compte tout ça. Et on se rend compte que les pays qui ont fait zéro Covid s'en sortent également et beaucoup mieux que les pays qui, comme nous, avons décidé de vivre avec. Donc cet argument ne tient pas.
Mais vous comprenez que c'est contre-intuitif. Je pense, on a tous cet exemple en tête, l'Australie, Melbourne, qui a connu un confinement total, strict, 2 fois plus long que le nôtre.
Non, ce n'est pas juste. Alors, la différence avec l'Australie, c'est qu'ils ont fait un confinement pendant le mois d'août et septembre. À partir de là, il y a eu quelques petits confinements de 3 jours ici, d'une semaine là-bas. Mais globalement, depuis le 1er novembre, l'Australie est revenue à un régime plutôt normal.
Oui,
donc on entend des confinements très stricts, mais ils sont très ponctuels. Et c'est incomparable. En fait, si on regarde au niveau de la liberté des restrictions individuelles, le fait que ça dure tellement chez nous, déjà, c'est évidemment beaucoup plus mauvais pour la santé mentale et sociétale. Mais en plus, même au niveau de la mesure, enfin de la gravité de ces mesures, elles sont très comparables.
On a parlé des libertés, on a parlé de l'économie. C'est vrai que dans le détail, on parle quand même avant tout de santé. Et là, vous mesurez aussi une vraie différence, une distinction sur la mortalité.
Oui, alors la santé, c'est le premier volet. Donc évidemment qu'on entend depuis le début les épidémiologistes et le personnel médical qui sont tous d'accord que zéro Covid, c'est mieux pour la santé. Ça, il n'y a pas de... Enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, ce qu'on a opposé, c'est des arguments économiques ou des arguments du type démocratique. Donc c'est pour ça que ce qui était important pour nous, c'était de ramener ensemble ces trois points de vue, le médical, l'économique et le sociétal.
Bien sûr. Mais sur la santé, qu'est-ce qu'on mesure concrètement comme différence entre une stratégie zéro Covid et une stratégie vivre avec qui voudrait préserver l'économie, même si vous démontrez que ce n'est pas si clair?
Alors nous, on a mesuré les morts dues au Covid, tout simplement parce que c'est un indicateur qui est évidemment un peu cru, mais pas manipulable. Mais donc c'est 25 fois plus de mortalité dans les pays qui ont choisi de vivre avec parmi les pays de l'OCDE pendant les 12 premiers mois de la pandémie. Mais évidemment, la mortalité, c'est un indicateur pour une charge globale beaucoup plus grande. Des hospitalisations, des Covid longs, des saturations des hôpitaux, une détresse psychologique importante. Enfin, donc on a pris la mortalité parce que c'était les données, en particulier pour la première vague, où le nombre de cas n'était pas encore bien mesuré et pas très comparable entre les pays.
On a parlé du président de la République un tout petit peu plus tôt. Il a présenté un plan de déconfinement pour la France. Quel regard est-ce que vous portez sur ces mesures d'ouverture annoncées?
Alors un déconfinement progressif et territorial, c'est une excellente idée. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait défendu il y a un an. La différence, c'est qu'en mai dernier, on avait un taux d'incidence de moins de 5 cas par 100 000 habitants par semaine. Maintenant, on est plutôt à 200. Donc c'est vrai que cette stratégie qui est la bonne, elle est la bonne quand le virus ne circule pas et quand on réagit vite du moment où tout d'un coup on repère une résurgence. On est assez inquiet, nous chercheurs, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je fais partie, que ça reparte comme en 40 et qu'on se retrouve avec une quatrième vague. Évidemment. Et ce qui est important là-dessus, c'est que on vit dans cette incertitude, l'incertitude d'une vague qui va venir. On ne sait pas quand, on ne sait pas quelle sera la gravité. Et ça empêche l'économie de se relancer.
Le 10 mai, c'est aujourd'hui. Le 11, demain, ça fera un an qu'on déconfinait ce grand confinement parfaitement inédit. Je vais retenir, si vous le voulez bien, Michael Oliubarton, une note positive. On va tirer quelques enseignements puisqu'on nous dit que d'autres pandémies du genre sont à venir. On peut préserver et la santé, et l'économie, et les libertés. C'est le message que vous passez ce matin, finalement. Merci beaucoup.
Merci à vous, Mathieu.
Michael Oliubarton, invité du Tête-à-Tête Europe Matin aujourd'hui. Il est 7h50 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Tiens, j'évoquais le 10 mai, la date du jour. Il y a 40 ans, François Mitterrand était élu à l'Élysée. On va y revenir dans l'édito politique de Nicolas Bétou. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1. C'est l'heure de l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Il y a 40 ans, jour pour jour, François Mitterrand était élu président de la République. Un événement considérable.
Oui, et une explosion de joie pour la gauche, un choc pour la droite qui n'avait jamais perdu le pouvoir depuis l'avènement de la Ve République, mais aussi un tremblement de terre à l'étranger. À l'époque, il faut se rendre compte que François Mitterrand avait nommé des ministres communistes au gouvernement, un cas unique en Occident, alors que l'URSS menaçait encore. Une journée historique donc, et pour le PS, une sorte d'apogée. Et ce qui est étrange, c'est que ce 40e anniversaire n'est absolument pas fêté à la hauteur de ce que fut cet événement. Un colloque hier avec quelques éléphants du PS, comme on dit, dont François Hollande. Une table ronde aujourd'hui avec Olivier Faure, l'actuel numéro 1 du parti. Colloque, table ronde, ça sent vraiment la déprime.
Et pourquoi cette discrétion?
Eh bien parce que le PS n'a rien à fêter d'autre qu'un monde disparu. Et la nostalgie, pour un parti politique, ça n'est pas très vendeur. Il y a 40 ans, la gauche unie derrière le PS faisait plus de 50% des voix. Aujourd'hui, les sondages lui promettent une perte de la moitié de ses forces à environ 25% des suffrages, un niveau historiquement bas. Et si on ne regarde que le PS, eh bien c'est pire encore. Alors que François Mitterrand avait frôlé les 35% de voix lors de sa réélection en 88, le dernier candidat PS à une élection présidentielle, Benoît Hamon, avait fait le score mirobolant de 6,4%. Et ce n'était probablement pas un accident, puisque les sondages actuels donnent une Anne Hidalgo entre 6 et 7%. Lorsqu'il avait quitté pour de bon l'Élysée au terme de ses deux mandats, François Mitterrand avait claironné que le PS était désormais le parti de l'alternance. Ça a été vrai avec François Hollande, mais ça, c'est du passé.
Vous voulez dire que le PS ne pourra plus accéder au pouvoir ?
C'est le plus probable, en effet. Le socialisme s'est perdu, il ne mène plus le monde. En France, les socialistes se sont fait dépouiller par les Verts et par les Insoumis, tandis que le Parti communiste, qui avait largement contribué à la victoire de la gauche en 81, est aujourd'hui nanifié. Il y a 10 ans, au moment du 30e anniversaire de l'accession de François Mitterrand au pouvoir, le PS s'apprêtait à prendre le contrôle de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Élysée, de Matignon, ainsi que d'une majorité de départements et d'un nombre considérable de très grandes villes. Eh bien, tout ça, à part quelques grandes villes, a été balayé. Fin de partie.
Sauf s'il se réinvente, en tant que parti ou en tant que doctrine d'ailleurs.
Alors pourquoi pas, mais il faudrait pour cela qu'il incarne à nouveau l'espoir. Or, ce sont d'autres mouvements politiques de gauche qui ont récupéré cette alchimie particulière, cette énergie, ce carburant qui peut alimenter la victoire. Aujourd'hui, les socialistes fêtent en toute discrétion ce 40e anniversaire. Au train où vont les choses, le PS ne sera plus là pour le 50e anniversaire.
Votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50 et donc vous prenez rendez-vous le 10 mai 2031. Merci Nicolas Bédou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Thibaut de Montbrial, avocat, spécialiste des questions de sécurité intérieure. C'est l'auteur de « Osons l'autorité » aux éditions de l'Observatoire. Et tiens, c'est Jean-Marie Le Pen qui est venu lui dire un mot à notre invité.
Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur Blédard. Et bonjour socialo-bolchevique monsieur Bétou, chez qui j'ai senti une pointe de nostalgie, pardonnez-moi, dans sa chronique, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Écoutez, bien identifié.
Je connais assez mal Thibaut de Montbrial, mais le titre de son ouvrage, n'est-ce pas, Hans Wein, osons l'autorité, me séduit assez. Je sais que je vais, comment vous dites, monsieur Blédard, kiffer cet invité.
Oui, c'est vrai que je peux dire ça parfois. En revanche, le titre, c'est Osons l'autorité, simplement. Hein. C'est pas Hans Wein, osons l'autorité. Bon, tiens, Philippe Devilliers est avec nous.
Oui, bonjour, messieurs. Écoutez, j'ai moi aussi, je dois le dire, la sympathie pour le livre de Thibaut de Montbrial. Déjà, parce que j'aime bien son patronyme. Il fait terroir, il fait vrai, il fait authentique. Il aurait pu jouer dans Les Visiteurs, aux côtés d'Hubert de Montmirail. Et la scène. Tiens, voici venir Jacouille, Hubert de Montmirail et Thibaut de Montbrial, morte-couille. En tout cas, n'oubliez pas...
Ça vous plaît, ça?
Oui, ça me plaît. Ouais. N'oubliez pas que dans la série des livres qui font peur, le best-seller, c'est quand même Le Jour d'après, mon livre. Hein, je suis, vous souriez, mais enfin, je suis quand même le Stephen King du roman d'actualité. Savez-vous que 96% des personnes, après avoir lu mon livre, n'osent plus sortir de chez eux, chez elles. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait. Ouais. C'est quand même une vraie réussite, non?
Là, c'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours. C'est juste avant 8h ce matin, Thibaut de Montbrial, à 8h15, vous l'avez noté, avec Sonia Mabrouk. Et puis Nicolas Canteloup, on va vous retrouver évidemment tout à l'heure à 8h45 pour la revue de presse. Très bon réveil à tous, à tout de suite pour la météo et les infos.